bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Au sommaire de cette émission, dans une première partie, les coups de cœur de la quinzaine, et dans une deuxième partie, nous aurons le plaisir de retrouver Dominique Manotti pour son dernier livre, bien connu des services de police. Dominique Manotti, une des grandes du polar français. Voilà, et bien moi je vous emmène pour mon premier coup de cœur, tout de suite dans le Wyoming, dans les grands espaces, retrouver un shérif des plus sympathiques. Le shérif du comté, alors je prends mon souffle, d'Absaroka. C'est ça, d'Absaroka. Il s'appelle Walt Longmire. Et on peut dire que ce shérif, c'est un éternel amoureux. Il se remet à peine de sa déconvenue dans Little Bird, le premier livre où on l'avait découvert. La femme, bon, vous en avez parlé, la femme dont il était tombé amoureux s'étant révélée en fait une criminelle. Et plaf, il retombe dans une histoire d'amour. Pas pour lui, mais c'est aussi une histoire de mort. Car Marie Baroya, une vieille dame, vient de rendre son dernier soupir dans la maison de retraite. Apparemment mort naturel. Mais dans cette maison de retraite, il y a aussi le mentor de Walt, l'ex-shérif, Lucien Connolly, qui passe, on peut dire, qui coule ses derniers jours dans cette maison de retraite. Et évidemment, Lucien a été l'ancien amant de Marie. Il ne croit pas du tout à la mort naturelle de la vieille dame. Et Walt Longmire, qui aime bien les histoires d'amour et qui aime tant le vieil homme, il va finir par le croire. Il va donc commencer à enquêter. Et puis, il le croira d'autant plus qu'il va y avoir de plus en plus d'attaques contre les proches de Marie Baroya. Je ne suis pas sûre de bien prononcer le nom de cette brave dame.
Ah, c'est pas grave, elle est morte.
Oui, tu as raison. Petit à petit, en fait, ça va être 50 ans de drames et de destins tordus qui remontent à la surface. Des histoires de terre, des histoires de gros sous. Et Greg Johnson nous raconte tout ça avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup d'humanité et de sensibilité. C'est la belle et tragique histoire de Lucien et Marie dans la tourmente de la violence des hommes du Wyoming. Et Dieu sait si les hommes dans le Wyoming sont quand même assez violents. Walt Longmire, il va encore une fois en prendre plein la tête. Je rappelle qu'il y a déjà un premier opus qui s'appelle Little Bird. Bon, ceci dit, moins que dans le précédent. Mais ce qui est intéressant dans ses livres, c'est qu'il peut compter sur ses amis pour l'aider, le soutenir, le nourrir même. Comme dans les meilleures séries B, les second rôles sont aussi de belles et grandes figures. Il y a Dorothy qui le, je cite, « maintient en vie en tenant le seul café proche de la prison ». Elle nourrit les prisonniers et évidemment, elle nourrit aussi Walt Longmire régulièrement, les visiteurs. Il y a sa secrétaire, Ruby, qui le protège et qui balise ses journées. Il y a son adjointe, Vic, aussi dure et tranchante que Walt peut tendre. Enfin, Walt, il est aussi un peu macho. Les lieux marquent les bonhommes par là-bas. Hein. Et puis, il y a le très, très, très beau personnage d'Henry Standing Bear, donc, qui a des origines indienne, comme son nom l'indique. Et lui, il est carrément prêt à tout pour soutenir son pote. On aimerait bien avoir des amis comme ça. Comme vous l'avez compris, je trouve ce livre absolument magnifique. C'est un livre comme je les aime, pétri d'une empathie sincère pour les humbles, les exclus. Et Dieu sait s'il y en a dans ce coin-là. Craig Johnson a toujours le ton juste. Que ce soit pour nous parler des philosophies indiennes, ou encore pour nous narrer le destin d'une femme battue, humiliée par son mari. Les émotions sont ici à fleur de mots, avec des envolées lyriques, quand l'auteur parle de la nature, de ce qu'il appelle le far west, tellement c'est isolé, ces espèces d'immensités rocailleuses qui façonnent, j'ai l'impression, le cœur et l'esprit de ses habitants. Les sentiments humains dans ce genre d'endroit ne peuvent être qu'exacerbés, et c'est tout le talent de Craig Johnson que de nous en parler avec des mots simples, mais qui font mouche, et qui résonnent encore longtemps dans notre esprit. Voilà, c'est vraiment un livre magnifique, Le Camp des Morts de Craig Johnson aux éditions Gallmeister. Pour une fois, j'ai donné toutes les coordonnées à la fin de...
Sauf le traducteur peut-être.
Ah oui, mais j'allais le dire. C'est très bien traduit par Sophie Aslanides. Voilà, les éditions Gallmeister, on en parle de plus en plus. Un choix éditorial des plus judicieux et des plus agréables. Petite précision. Oui, Jacques,
tu... Oui, je voulais préciser qu'on pouvait écouter la chronique concernant le premier roman de Craig Johnson sur le site de Ondes Noires.
Et on avait certainement très bien fait d'en parler de ce livre, puisque justement il vient d'obtenir le prix du roman noir 2010 du Nouvel Obs Bibliops. Il est aussi sélectionné pour le Grand Prix des littératures policières. Je parle évidemment du premier, hein, Little Bird, qui vous présente Walt Longmire. Donc, tant qu'à faire, allez, pour vos lectures d'été, achetez les deux chez Gallmeister. Jacques, on va à la série noire ?
On va à la série noire, on revient en France, en Rhône-Alpes, avec un livre de Marin Le Dain qui s'appelle La guerre des vanités, qui est donc paru à la série noire et qui vaut 18 euros. Alexandre Crovine, c'est un flic expérimenté, mais fatigué, malade, c'est un fumeur invétéré. Il officie, disons, généralement, à la brigade des stupes de Valence, mais là, pour cette enquête, il va rejoindre Tournon. Tournon, c'est donc dans la vallée du Rhône, en face de Tain-l'Hermitage, et qui est sa ville natale, mais natale est oubliée. Et il va tenter de comprendre, et surtout de faire cesser, une série de suicides d'adolescents. Il y en a 5 ados se sont suicidés en 24 heures, donc ça fait beaucoup.
Mais Jacques, c'est dur d'empêcher de suicider. Bien des suicides.
Voilà, et surtout que tous ces suicides étaient filmés par des caméras et des webcams. Donc c'est effectivement bien des suicides. Et donc il va retrouver cette ville, Tournon, où les rives du Rhône ne sont guère riantes. Les habitants de cette petite ville sont comme elle, en fait, assez étriqués. Crovine, lui, va se prendre de l'empathie pour ces gosses qui s'autodétruisent. Et il va foncer, parce que c'est un fonceur, pour vraiment, quand son enquête, il y va à fond, pour trouver qui, quoi, et aussi comment sont manipulés ces jeunes ados. Parce qu'évidemment, ils ne se suicident pas comme ça par une simple...
C'était pas des adeptes de Kurt Cobain.
Évidemment, il va se mettre à dos les édiles, les notables et même ses collègues du commissariat. Mais il va pas lâcher le morceau. Il ne va pas lâcher le morceau, pardon, crachant de plus en plus difficilement les cigarettes qu'il fume de longue. Il va même jusqu'à parfois malmener les témoins et les familles des victimes qui, il s'en rend bien compte, tous savent quelque chose, mais personne ne veut rien dire. C'est toujours l'ambiance des petites villes où chacun veut un peu régler les affaires par eux-mêmes sans avoir besoin d'un étranger. Après ces deux premiers romans qui étaient prometteurs mais qui manquaient un petit peu de tenue, tant dans l'intrigue que dans l'écriture, là, Marin Le Dain sort avec ce roman, sort vraiment de l'ombre avec cette guerre des vanités, si je peux dire, à la série noire, parce qu'elle y a fait du bien à son travail. Le style est parfaitement maîtrisé et il arrive à nous immerger aussi bien dans la tête du flic, dont il nous le transmet parfaitement les sentiments, les contradictions, les atermoiements, et même les râles de ses poumons ravagés par la nicotine. Ce flic, il pourrait être un personnage de Robin Cook, l'anglais, hein, celui qui s'appelle, si je m'abuse,
Derek Raymond,
voilà. Et il nous immerge aussi dans cette ville coincée entre la montagne de l'Ardèche et l'autoroute doublée de la voie ferrée. Aussi toute une horreur de cette ville qui est repliée sur elle-même, où même le Mistral, qui est souvent véhément, n'arrive pas à évacuer ce qu'on pourrait dire les scories de la ville. Et puis, ce qui est vraiment très fort dans ce livre, c'est le rythme. Le tout va vraiment à 100 à l'heure. Les flics ne dorment pratiquement pas. L'enquête s'étale sur à peine 3 jours, et l'écriture suit un peu ce rythme au fur et à mesure des nuits courtes et de la fatigue qui tombe sur les épaules des flics. Et il emporte même, en fait, dans ce rythme, le lecteur avec lui. J'ai presque failli dire qu'on sort essoufflé à la lecture de ce roman. Et il faut aussi signaler que Marin Le Dain revient dans ce livre sur, après Marketing Viral, qui était un de ses précédents, sur un de ses thèmes favoris qui donne bien à réfléchir, dont on pourrait faire encore toute une chronique, sur les neurosciences, qui sont donc de plus en plus utilisés, et surtout, pas tellement les neurosciences, mais leurs dérives, en fait.
Les dérives, voilà, des neurosciences.
Donc vraiment, ça c'est
donc on va rappeler le
hautement
titre.
Recommandable. Marin Le Dain, à la série noire, le roman s'appelle La guerre des vanités.
Si tu as, je n'ai pas lu le livre, mais si tu as cité Robin Cook comme référence, ça ne peut être qu'un excellent roman. Un petit peu de musique ?
Un petit peu de musique d'un bluesman du sud des États-Unis qui doit peut-être avoir les pieds dans le...
Wyoming, alors ?
Non, pas du Wyoming, je crois qu'il est beaucoup plus bas que ça. Il doit plutôt avoir les pieds dans le mazout de chez 2BP. Il s'appelle Kenny Neal et la chanson s'appelle Udu Moon.
on a ladder. Mama cool to have my fortune read. She saw the dark cloud hanging over my head. And she say, son, she'll be back soon. You're gonna get her back on a ladder.
Alors, si tu veux bien rappeler le titre du morceau, Jacques.
Voilà, le morceau est donc d'un guitariste harmoniciste, Kenny Neal, et le morceau s'appelle Udo Moon.
Alors, choisis ce disque parce que c'est du blues qui va bien au livre dont on vous parle, mais choisis aussi un tout petit peu pour le titre, parce que maintenant je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Noon Moon. Un livre étonnant, qui est et sera certainement le seul exemple de dialogue socratique de Platon sur fond de géopolitique post 11 septembre dans la planète polaire. Enfin, tout au moins, je parierais bien que ce sera le seul. Ce livre donc s'appelle Noon Moon. L'auteur en est Percy Kempt et c'est sorti récemment aux éditions Seuil Policier. D'aucuns l'ont classé comme thriller. J'avoue ne pas être d'accord. C'est un livre à part, mais avant tout, c'est un petit chef-d'œuvre d'érudition et d'écriture. On peut dire que dans ce livre, il y a deux parties. Dans sa première partie, on va découvrir deux personnages. Zandi, l'occidental, prisonnier d'une faction islamiste. Agaïev, plutôt oriental, un de ses geôliers, certes, mais aussi stratège, philosophe, terroriste lui-même d'ailleurs, et qui va petit à petit séduire Zandi par ses théories et sa manière de décrire la lutte entre l'Occident, États-Unis en tête bien évidemment, et les islamistes de l'autre. Et Agaïev, là, s'en donne à cœur joie avec ses rencontres avec Zandi, en convoquant Socrate, Plutarque, mais aussi des plus récents comme Gramsci, afin de montrer les faiblesses, et c'est là qu'il est très fort, les faiblesses de chaque camp, pas seulement de ses ennemis ou pseudo-ennemis. En fait, tout ça pour mieux décrypter l'âme humaine et ainsi pouvoir démontrer à Zandi les manipulations des uns comme des autres. Les deux hommes, pardon, ont donc deux origines, une origine occidentale, deux cultures, mais ils se rapprochent parce que ils ont eu quand même un chemin multiculturel. Et Agaïev, comme il explique, grâce à ces deux formations, s'est formé sa propre vision, sa propre philosophie du monde actuel. Il peut ainsi comprendre le décalage qui existe entre les apparences, relayées par les discours officiels, et la réalité, l'essence des idées et la foi de chacun. Il dit à un moment donné, nos idées façonnent nos perceptions, mais là où est la question, comment se forgent nos idées. Petit à petit, Zandy est fasciné par son geôlier. Il va bientôt adhérer au projet d'Agaïev, qui se dit qu'il va sauver le monde en le ramenant bien en arrière. Une sorte d'idée, je dirais, déridesque, Derrida avec sa déconstruction. On va tout déconstruire pour reconstruire. Zandy trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et on bascule alors dans la deuxième partie. Seconde partie, un « ami », entre guillemets, des États-Unis élimine petit à petit des terroristes. Mais il oppose aussi la première puissance mondiale aux autres en dérivant et en éliminant des gens qui sont pas franchement des terroristes. C'est un petit peu, il commence à déstabiliser les États-Unis. À déstabiliser les États-Unis. Charlie, qu'on a déjà bien rencontré dans la première partie, c'est en fait un agent d'une énième agence de contre-espionnage ultra secrète, comme on en retrouve dans beaucoup de romans. Lui, il commence à comprendre la stratégie de ce soi-disant ami des Américains.
C'est un personnage très important aussi, hein, Charlie.
Oui, dans c'est vrai que j'ai pas le temps. On pourrait parler pendant une heure de ce roman. J'ai pas le temps de vous développer ce personnage qui est au départ assez monolithique, mais dont on perçoit petit à petit la subtilité au fur et à mesure des chapitres.
Oui, un petit peu ambigu par certains.
Tout à fait. En gros, et c'est là toute la subtilité du roman, va-t-il y avoir un gagnant, un perdant, que des perdants, que des gagnants dans ce combat qui s'annonce très très difficile. Percy Camp, l'auteur, nous livre ici ses réflexions sur les sociétés et, en gros, sa vision de la géopolitique actuelle. En fait, par la voix d'Agaïev principalement, l'homme de la dialectique de début. En gros, comment l'homme peut-il discerner la vérité du mensonge, le bien du mal? Décide-t-il de ses actes, de ses peurs? Ou est-il constamment sous l'emprise de son éducation, de son origine et de sa culture, quelle qu'elle soit? J'ai l'impression là de faire une série de sujets de baccalauréat philosophique qui va arriver dans un mois. Donc on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il faut lire ce livre pour faire un bon sujet. L'auteur est lui-même issu d'une double culture, père anglais, mère libanaise. Et il ne nous assène d'ailleurs pas du tout sa vérité, sa morale, mais très subtilement nous incite au questionnement, au doute. C'est, par rapport à tout ce que je viens de dire, bel et bien un très grand roman noir. Ouais. Pour moi, c'est pas un roman d'espionnage.
Pour moi, c'en est un.
Voilà.
Mais c'est... je voulais juste préciser aussi que tu parlais de Percy Camp qui était libanais et anglais d'origine, et qu'on n'a pas cité de traducteur parce que ce roman est écrit directement en français.
Oui, il estime que sa culture multi-identité, on peut dire, le pousse à n'écrire ni dans sa langue maternelle, ni dans sa langue paternelle, mais une autre langue qu'il manie parfaitement bien, le français, il paraît qu'il en manie encore d'autres. Je rappelle, Percy Camp, Noon Moon, c'est chez Seuil Policier, un roman étonnant et de la meilleure eau. À bientôt.